Chapitre 19. Les témoins à décharge. L'immense intérêt qu'excitait ce procès s'accrut encore prodigieusement le quatrième jour. C'était maintenant le tour des témoins appelés par la défense. Au premier rang parmi eux se trouvait la mère du prévenu. Appelée la première, elle jeta, en levant son voile pour prêter serment, un regard maternel sur son fils qui, aussitôt, fondit en larmes. À cet instant, la sympathie que tout le monde éprouva pour la mère commença enfin à s'étendre un peu jusqu'à son malheureux fils. À toutes les questions qui lui furent posées, Madame McCallan, mère, répondit avec un calme et une dignité admirables. Interrogée sur certaines causeries intimes qu'elle avait eues avec sa bru, elle déclara que Madame Eustache McCallan était, pour tout ce qui tenait à l'extérieur de sa personne, d'une sensibilité maladive. Passionnément attachée à son mari, le grand souci de sa vie était de se rendre à ses yeux aussi attrayante que possible. Les imperfections de sa personne, et particulièrement de son teint, étaient pour elle le sujet des plus amers regrets. Maintes et maintes fois, le témoin lui avait entendu dire qu'il n'y avait pas de risque qu'elle ne fût prête à courir, pas de souffrance qu'elle ne fût prête à endurer, pour embellir ce teint qui faisait son malheur. Les hommes, avait-elle coutume de dire, se laissent tous prendre aux charmes extérieurs, et peut-être, sans ce malheureux teint, mon mari m'aimerait-il davantage. À la question de savoir si les extraits du journal de son fils pouvaient être regardés comme des témoignages dignes de foi, ou en d'autres termes, s'ils représentaient exactement les particularités de son caractère et ses vrais sentiments envers sa femme, Madame McCallan répondit par la dénégation la plus claire et la plus formelle. « Ces extraits du journal de mon fils, dit-elle, sont une diffamation de son caractère, et ne croyez pas que, pour être écrits de sa main, ils en soient moins une diffamation. Forte de mon expérience maternelle, je suis sûre qu'il a dû écrire les passages qui ont été produits dans des moments d'abattement et de désespoir où il n'était plus maître de sa pensée. Quel homme juste voudrait juger à la hâte quelqu'un sur les paroles imprudentes qui peuvent lui échapper dans ses heures de chagrin et d'amertume? Eh bien, parce qu'il se trouve qu'au lieu de les prononcer, ces paroles imprudentes, mon fils les a écrites, doit-il être jugé ainsi? Sa propre plume a été, dans ce cas, son plus mortel ennemi. Elle l'a présenté sous le jour le plus défavorable. Que mon fils n'ait pas été heureux en ménage, je le reconnais, mais je dis en même temps qu'il a été plein d'égards pour sa femme. L'un et l'autre avaient en moi une confiance absolue, et j'ai eu toutes les occasions possibles de les voir dans ces moments où l'on ne cache rien. Eh bien, je déclare, en dépit de tout ce qu'elle paraît avoir écrit à ses amis ou correspondantes, que jamais mon fils n'a donné à sa femme une cause sérieuse d'affirmer qu'il la traitait avec dédain ou cruauté. » Ces mots, dits d'une voix nette et ferme, produisirent une vive sensation. Le procureur général, comprenant le peu de chances de succès qu'aurait toute tentative faite par lui pour affaiblir cette impression, se borna dans un contre-interrogatoire à deux questions significatives. « En vous parlant des imperfections de son teint, dit-il à Madame McCallan, votre bru a-t-elle fait quelque allusion à l'emploi de l'arsenic pour y remédier ?» La réponse à cette question fut « Non ». Le procureur général continua « Et vous-même, dans ces conversations intimes dont vous nous avez entretenus, avez-vous jamais recommandé l'arsenic? En avez-vous jamais parlé ?»« Jamais !» Le procureur général déclara qu'il n'avait pas d'autres questions à faire aux témoins et Madame McCallan, mère, se retira. Un nouvel intérêt fut excité par l'apparition du témoin suivant qui n'était rien moins que Madame Bolly elle-même. Le compte-rendu la représente comme une personne remarquablement attrayante, de manière modeste et distinguée, et montrant par toute sa tenue qu'elle sentait vivement la position pénible qui lui était faite. La première partie de son témoignage ne fut guère qu'une récapitulation de ce qu'avait dit la mère du prévenu, avec cette différence toutefois que Madame Bolly avait été positivement questionnée par la défunte sur l'emploi des cosmétiques qui peuvent servir à embellir le teint. Madame Eustache McCallan, après l'avoir complimentée sur la beauté de son teint, lui avait demandé ce qu'elle faisait pour conserver tant d'éclat et de fraîcheur. Comme elle ne faisait rien du tout pour cela et ignorait complètement l'usage des cosmétiques, Madame Bolly avait été offensée de cette question et il en était résulté une froideur passagère entre ces deux dames. Quant à ses relations avec l'accusé, Mme Bolly nia avec indignation que M. McAlan eût jamais donné à la défunte le moindre sujet de jalousie. Il était absolument impossible qu'après avoir rendu visite aux voisins de son cousin, elle quittât l'Écosse sans aller chez lui. Une telle conduite, outre qu'elle eût été un acte d'impolitesse inqualifiable, n'eût pas manqué d'exciter l'attention. Elle ne nia point que M. McAlan se fût montré épris d'elle dans le temps où ni l'un ni l'autre n'étaient mariés. Mais du jour où elle eut épousé un autre homme et où il eut épousé une autre femme, il ne s'était permis ni l'un ni l'autre de donner cours à de tels sentiments. Leur relation, à partir de cette époque, avait été aussi innocente que celle d'un frère et d'une sœur. M. McAlan était un galant homme. Il savait quels étaient ses devoirs envers sa femme et quels étaient ses devoirs envers Mme Bolly. Jamais elle n'aurait mis le pied chez lui si, par expérience, elle n'en avait été certaine. Quant au témoignage de l'aide-jardinier, pour ne pas être une pure invention, il n'en valait guère mieux. La plus grande partie de la conversation, qu'il disait avoir surprise, n'avait jamais eu lieu, et le peu qu'il y avait de vrai dans ce qu'il rapportait avait été dit en plaisantant. Elle-même avait immédiatement arrêté cette plaisanterie, comme le témoin d'ailleurs le déclarait. En somme, M. McAlan avait toujours été, dans sa conduite envers sa femme, plein d'égards et de bonté. Constamment, il s'occupait de trouver des moyens d'alléger les souffrances que lui causait l'affection rhumatismale qui la forçait à garder le lit. Ce n'était pas une fois mais mille qu'il avait parlé à Mme Bolly de sa femme dans les termes de la plus vraie sympathie. Lorsque la veille de sa mort, Mme McAlan avait ordonné à son mari et à Mme Bolly de quitter sa chambre, M. McAlan s'était contenté de faire cette réflexion. « Nous devons patienter avec sa jalousie, qu'il nous suffise de savoir que nous ne la méritons pas. » Et c'est ainsi que, du premier jour jusqu'au dernier, M. McAlan, avec une patience admirable, s'était soumis à l'humeur jalouse de sa femme. L'intérêt principal de l'interrogatoire de Mme Bolly se concentrait dans une question qui ne lui fut posée qu'en dernier lieu. Après lui avoir rappelé qu'elle avait, en prêtant serment, déclaré s'appeler Hélène Bolly, le procureur général lui dit « Une lettre adressée au prévenu et signée Hélène a été lue à la cour. Examinez-la, s'il vous plaît, et dites si, oui ou non, cette lettre est de vous. » Avant que le témoin eût pu répondre, l'avocat de l'accusé s'opposa à ce qu'une telle question fût faite au témoin. La cour fit droit à ses conclusions et ne permit pas au procureur général d'insister sur cette question. Mme Bolly se retira. Elle n'avait pu complètement réprimer son émotion lorsqu'on avait parlé de cette lettre et qu'on la lui avait mise entre les mains. Cette émotion avait naturellement donné lieu, dans l'auditoire, à des commentaires très divers. Mais en somme, le témoignage de Mme Bolly avait tendu à confirmer l'impression que le témoignage de la mère avait produite en faveur de l'accusé. Les deux témoins entendus après Mme Bolly furent deux dames, toutes les deux amies de pension de Mme Eustache McAlan. Un vif intérêt s'attacha tout aussitôt à leur déposition. En effet, elles apportaient aux moyens présentés par la défense le poids et la consistance qui lui manquaient jusque-là. La première de ces dames déclara que, dans ses conversations avec Mme Eustache McAlan, elle avait mentionné l'arsenic comme moyen d'embellir le teint. Cette dame ajouta qu'elle n'en avait jamais fait usage elle-même, mais elle avait lu quelque part que, parmi les paysans styriens, c'était une coutume assez générale de prendre de l'arsenic pour s'éclaircir le teint et lui donner les apparences de la fraîcheur et de la bonne santé. Elle déposa sous serment qu'elle avait fait part de ce résultat de ses lectures à la défunte, exactement comme elle venait de le raconter à la cour. La seconde de ces dames, présente à la conversation submentionnée, en confirma tous les détails. Elle ajouta qu'elle s'était procurée, à la prière de Mme Eustache McAlan, le livre où il était question de cette coutume des paysans syriens, et qu'elle avait elle-même envoyé ce livre par la poste à Mme Eustache McAlan, à Gleninch. Il n'y avait qu'un point faible dans ces témoignages assez concluants. L'accusation le découvrit. À chacune de ces dames, le procureur général demanda si jamais Mme Eustache McAlan leur avait exprimé directement l'intention de se procurer de l'arsenic et d'en faire usage pour s'éclaircir le teint. La réponse des deux témoins à cette question, souverainement importante, fut « non ». Madame Eustache Macallan avait entendu parler du remède et avait reçu le livre. Mais de ses intentions ultérieures, elle n'avait pas soufflé mot. Au contraire, elle avait prié ses amis de considérer la conversation comme absolument confidentielle et il n'en avait plus été question. Il n'était pas nécessaire d'avoir l'œil expérimenté d'un homme de loi pour découvrir le fatal défaut qui venait de se révéler dans l'ensemble des témoignages entendus jusque-là à la requête de la défense. Tout le monde comprenait que, pour que l'accusé eût quelque chance d'être honorablement acquitté, il fallait qu'il fût prouvé que sa femme avait eu du poison en sa possession, ou du moins qu'elle avait exprimé son intention expresse de s'en procurer. Dans l'un ou l'autre cas, l'accusé se fût appuyé sur un témoignage, indirect sans doute, mais auquel tout esprit honnête et sensé eût pu ajouter foi. Ce témoignage allait-il se produire ? La défense était-elle ou n'était-elle pas encore à bout de ressources ? La foule qui remplissait la salle attendait, respirant à peine, le témoin qui allait venir. La rumeur circula, parmi les personnes bien renseignées, que la cour allait maintenant voir et entendre le vieil ami du prisonnier, dont le nom avait été déjà mentionné au cours du procès. Après une courte attente, il se fit soudain dans l'auditoire en mouvement, accompagné d'exclamations de curiosité et de surprise, promptement étouffées. Au même instant, l'huissier appela le témoin suivant par le nom extraordinaire de Miserimus Dexter.